Vous écoutez Europe 1, très belle journée. Il est 13h.
Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. J'ai 60 minutes pour vous montrer que oui, la France bouge et que vous êtes les acteurs de ce changement. Aujourd'hui, gros plan sur les premières assises de l'intelligence artificielle à l'école. Comment peut-elle aider cette intelligence? Les profs, mais aussi les élèves, des Français y ont réfléchi et arrivent avec des initiatives qui font avancer le débat. C'est une manufacture historique de la Manche. Elle équipe les plus belles cuisines de France, Moviel 1830. Et l'entreprise qui va bien, merci. Et puis faire aimer les fruits et les légumes aux enfants en leur apprenant à les préparer, c'est ce que propose Cuisine Aventure. C'est la solution pour développer les talents de nos petits gastronomes. C'est ça, la France qui bouge, et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, vous avez comme chaque jour la parole sur Europe 1. Venez nous dire si vous faites partie, Anissa, de ceux qui ont peur de l'intelligence artificielle ou si vous voyez au contraire son arrivée dans nos vies comme un plus.
Bah oui, n'hésitez pas, vos témoignages, vos questions, vos craintes. Tous les invités de Raphaël Duchemin répondent et vous écoutent au 39-21, c'est le standard d'Europe 1. Et puis on lit également tous vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Oui, car demain, les premières assises de l'intelligence artificielle à l'école vont avoir lieu et vous vous demandez peut-être à quoi elle peut servir en classe. Eh bien, vous allez voir qu'il y a mille et une applications possibles pour découvrir celles qu'ont imaginées justement nos invités. J'accueille à mes côtés, comme chaque jour, Elisabeth Assayag. Bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Et notre coach Eric Léandri, bonjour.
Bonjour.
Fondateur de Quant, bien sûr. À l'école, s'il y a une étape capitale, vous serez d'accord avec moi, c'est bien celle de la lecture. Sans connaître son alphabet, impossible de déchiffrer des mots, des phrases, ni d'écrire ensuite. Sauf qu'avec les classes chargées aujourd'hui, eh bien, les enseignants se retrouvent parfois en difficulté pour aider les élèves à acquérir ce qu'on appelle le B.A.B.A. C'est donc en partant, en quelque sorte, de ce constat qu'est né Lalilo. Bonjour Laurent Joly.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous avez lancé cette plateforme, c'était il y a 3 ans maintenant, parce que vous-même, en allant tout simplement dans les écoles, vous aviez constaté que tous les enfants n'avançaient pas forcément au même rythme et que du coup, ben, les maîtresses, les maîtres étaient obligés, en quelque sorte, de faire des choix.
Tout à fait, et ça leur prend énormément de temps de pouvoir préparer des cours chaque jour pour leur classe. Alors s'adapter à chacun des élèves de leur classe, c'est vraiment surhumain. Et notre idée, c'est vraiment de pouvoir proposer un outil qui leur permet justement de devenir d'excellents professeurs et capables de s'adapter à chacun des élèves de leur salle de classe.
Alors cette plateforme de Lalilo, qu'est-ce qu'elle propose exactement ?
Alors, elle propose pour l'élève des exercices adaptés qui vont lui garantir de progresser dans sa zone proximale de développement afin d'avoir des exercices adaptés à son niveau, à ses difficultés, à ses façons d'apprendre et qu'il ne se retrouve pas quelques années plus tard en situation d'échec scolaire.
Donc, je suis dans une classe, j'apprends à lire par exemple et vous m'aidez avec un assistant qui s'adapte à mon niveau par exemple de lecture.
Alors, pour l'élève, tout à fait, et pour le professeur des écoles également, on va pouvoir proposer de faire des synthèses de ce qui se passe dans la salle de classe afin que le professeur soit toujours en confort dans sa classe et qu'il sache où en sont ses élèves.
Comment on fait ? On se connecte à cette plateforme, on est en classe, imaginons, on est en CE1, la lecture pour certains c'est quelque chose d'acquis, pour d'autres un petit peu moins. Je vais pouvoir, moi si je suis enseignante, dire tu vas te servir de Lalilo pour faire tel exercice parce que c'est ton niveau et puis à un autre élève faire un autre exercice parce qu'il sera un petit peu plus avancé ?
Tout à fait, alors... Pour ce qui est de Lalilo, il y a besoin d'un petit peu de matériel, soit des tablettes, soit des ordinateurs et d'une connexion à Internet. Une fois qu'on a du matériel à disposition, effectivement, on va pouvoir mettre les élèves alors soit en mode roue libre, en faisant confiance à Lalilo pour proposer des exercices qui vont être adaptés et ne pas passer trop de temps de préparation, soit pouvoir intervenir en se disant « Ah, moi je me suis rendu compte que tel élève, il avait eu telle difficulté, j'aimerais bien que Lalilo le fasse travailler sur cette difficulté. » Une troisième possibilité, c'est de travailler avec sa vie de classe pour pouvoir dire « J'ai envie que tous mes élèves y travaillent sur le son haut par exemple, parce que cet après-midi, je vais travailler sur une comptine qui rime en haut. »
Donc c'est comme si finalement, on avait un prof particulier qui s'occupe de nous en classe.
Effectivement, l'idée c'est vraiment de pouvoir permettre aux profs d'avoir plus de paires de mains dans la classe et de pouvoir s'adapter à chacun des élèves, comme s'il y avait plusieurs adultes dans la salle de classe, alors qu'évidemment, on ne fait que donner un outil performant aux professeurs.
Où est-ce que se cache l'intelligence artificielle dans ce que vous avez mis au point ? Comment est-ce que vous avez fait pour l'intégrer ?
Alors pour nous, il y a deux parties sur lesquelles on travaille. La première, c'est vraiment de pouvoir réfléchir à quel est l'exercice le plus pertinent pour un élève donné, ce qu'on appelle faire de la différenciation dans la salle de classe, s'adapter aux élèves. Et pour ça, il y a une technologie qui s'appelle l'adaptive learning, qui à différents niveaux et différents degrés, on essaie de la pousser très loin au niveau de l'apprentissage de la lecture. Et la deuxième chose qu'on essaie de faire, c'est d'augmenter le volume de lecture à voix haute dans une salle de classe, parce que c'est quelque chose qui manque drastiquement, et on a toujours besoin d'avoir un adulte pour donner un feedback à un élève. Et dans une salle de classe, évidemment, il y a un professeur pour plusieurs élèves. Donc on va travailler sur une technologie de reconnaissance vocale très spécifique de l'apprentissage de la lecture, puisque contrairement à d'autres technologies, on ne sait pas, on sait ce que l'enfant est censé prononcer, puisqu'on lui donne à lire. Oui. Par contre, on veut corriger les erreurs qu'il fait.
Elisabeth, c'est vrai que l'intelligence artificielle, elle est aujourd'hui au cœur de l'éducation.
Tout à fait, hein, c'est totalement l'enjeu. L'intelligence artificielle, dont on vient de l'entendre, ça permet de personnaliser les apprentissages selon les besoins, selon les compétences de l'enfant. Par exemple, la technologie intelligente peut proposer, vous venez de le dire, des exercices adaptés à leur niveau d'apprentissage. Et c'est en ce sens que le ministère de l'Éducation nationale a lancé en juillet un partenariat d'innovation avec la Caisse des dépôts, 6 à 8 millions d'euros pour financer la recherche et le développement de 6 solutions innovantes pour l'apprentissage du français et des mathématiques en primaire.
Ouais, effectivement, vous êtes pile dans la cible, hein, si j'ose dire, Laurent Joly.
Oui, tout à fait, on a répondu effectivement à cet appel d'offres.
Vous avez répondu à cet appel d'offres. Que dit notre coach ?
Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est toute la partie données personnelles des enfants. Donc, je sais, je suis mono-orienté. Et donc, sur cette partie-là, je sais que tu vends très bien aux US, que tu vends très bien ici. Tu as choisi quelle loi ? De protection de données des utilisateurs ou...
Eh ben, de toute façon, en France, on est effectivement sur le RGPD, donc pour protéger tous les utilisateurs, hein, et pas uniquement les enfants. Aux États-Unis, il y a d'autres types de lois, il y a des dispositifs qui s'appellent la COPPA, etc., qu'on met en place.
Il y a combien de professeurs qui ont choisi, ou d'écoles qui ont choisi votre méthode ici en France ? Parce qu'effectivement, Eric le disait, aux États-Unis, c'est plus répandu, mais ici, chez nous, ça se développe vraiment ?
Ah oui, tout à fait. C'est l'un des endroits dans le monde où on voit le plus de croissance en nombre de professeurs qui utilisent. Donc on a quelques centaines de professeurs qui utilisent la ILO chaque semaine et qui apprécient vraiment l'aspect pédagogique de la plateforme.
Elisabeth, c'est le cas. Hein. Il y a des écoles de commerce aussi qui misent sur l'intelligence artificielle.
De plus en plus. Hein. Deux écoles de commerce, hein. C'est une information des Échos là, d'aujourd'hui, du journal Les Échos. Schema Business School et l'EM Lyon ouvrent des laboratoires d'intelligence artificielle, l'un aux États-Unis et l'autre en France.
C'est un plus, hein, l'intelligence artificielle, Eric Léandre, et peut être un moins parfois, ça dépend comment on l'utilise.
Non, en fait, on va en mettre dans tout. Tout ce qui est pour aider les humains, c'est un vrai plus. Tout ce qui est pour améliorer l'apprentissage de la lecture et autres, c'est un vrai plus. Il faut juste arrêter une histoire sur l'intelligence artificielle, parce que ce n'est pas vrai. On a besoin de données personnelles, mais qu'on peut anonymiser ou pseudonymiser, pour faire de la très bonne intelligence artificielle, ce que fait monsieur. Et il faut arrêter cette histoire, il faut donner toutes vos données, le santé, le personnel et compagnie, pour faire de l'intelligence artificielle. À tel point que l'autre jour, on m'a dit à l'OTAN que les missiles russes avaient beaucoup d'intelligence artificielle, et si on ne donnait pas nos données personnelles, les missiles européens ou américains auraient moins d'intelligence artificielle. Vous avez une idée de quelles données personnelles vous permettent de faire voler un missile russe ? C'est n'importe quoi. Voilà, c'est n'importe quoi. Docteur Laurent Alexandre, il parle beaucoup d'intelligence artificielle. Moi, je ne parle jamais de médecine. On va inverser, ça sera mieux. Et donc, à partir de maintenant, sachez qu'on peut faire de l'intelligence artificielle en protégeant les données personnelles.
Oui, de manière intelligente. Donc.
Pour les humains.
Merci pour cette petite précision. On reste ensemble, on continue à parler intelligence artificielle sur Europe 1.
Il est 13h09.
Europe 1.
Comment aider un élève qui bute sur un problème ? La solution s'appelle peut-être Edouard. Cet assistant virtuel va faire son entrée, lui aussi, dans le monde de l'éducation dès demain. Son papa, en quelque sorte, est avec nous sur Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours de 13h à 14h avec vous, Raphaël Duchemin, avec vos invités. Et cette question que vous posez aujourd'hui, comment l'intelligence artificielle va aider professeurs et élèves ? Vous pouvez réagir à cette émission, c'est aussi la vôtre. Vos questions, vos témoignages, vos réactions, 3921, le standard d'Europe 1 et Twitter avec le hashtag Europe 1.
On a tous, hein, je suppose que vous aussi, Anissa, séché lamentablement sur un problème de trigonométrie ou sur un exercice de physique. Et à mon époque, à part les livres ou les conseils de papa pas maman, eh bien, les recours étaient assez minces. Aujourd'hui, il y a Internet, mais encore faut-il trouver son chemin, le bon endroit, les bonnes directives. L'étape d'après, c'est peut-être bien Edouard. Bonjour Sébastien Vinky.
Bonjour.
Merci d'être Merci avec nous. Vous êtes le responsable du pôle innovation chez Pidiez, toute jeune entreprise. Pourquoi Edouard est si exceptionnel? Racontez-moi, qu'est-ce qu'il sait faire, votre assistant pédagogique?
Alors, comme vous l'avez dit, Edouard est donc un assistant pédagogique scolaire. Et donc, Edouard a pour objectif justement de rattraper, challenger l'élève pendant son parcours scolaire. Donc, Edouard a pour objectif de pouvoir accompagner l'élève donc, dans sa démarche donc, de résolution ou de compréhension d'un exercice. Et donc, de manière autonome, il arrive à analyser l'exercice, le comprendre et proposer une solution pédagogique à cet élève.
Donc, je suis devant mon problème de maths, je n'arrive pas à trouver la solution, je fais appel à Edouard, il ne va pas me donner la solution, il va m'aider à trouver des exercices similaires, me mettre en quelque sorte sur la bonne voie, c'est ça?
Tout à fait, c'est bien ça. Alors aujourd'hui, Edouard, son ambition n'est pas de donner le résultat, mais d'accompagner dans la compréhension d'un exercice. Donc effectivement, Edouard va accompagner l'élève de manière interactive, donc il va scanner son problème ou alors le saisir de manière audio. Donc ce qui... Là, en l'occurrence, dans le cas de l'inclusion, hein, pour les malvoyants, ce qui lui permet donc d'un côté donc, de recevoir donc, l'exercice, de l'analyser, de le comprendre de manière autonome et ensuite de proposer donc, de manière interactive, je prends un exemple très simple, je considère que l'élève a un problème sur un rectangle, on va lui demander, sais-tu ce que c'est qu'un rectangle? Oui, ok, très bien, on passe à l'étape suivante. Ne sais-tu pas ce que c'est qu'un rectangle? Bon, je vais te rediriger vers une définition. Une propriété du rectangle pour que tu puisses mieux connaître ce que c'est. Justement.
Donc, on lui donne les clés pour arriver à résoudre son problème.
Tout à fait.
Où se cache l'intelligence artificielle? Même question que pour la Lilo. C'est ce qui permet évidemment d'aider à la résolution.
Tout à fait. Alors, l'intelligence artificielle, elle se cache pour nous sur un serveur. Donc, ça fait beaucoup de données analysées. Donc de données...
Vous avez rentré tout un tas de données à l'intérieur pour arriver
c'est
à...
C'est ça. C'est tout à fait ça. Donc, il y a un premier côté qui est beaucoup plus technique. Donc, on va dire l'apprentissage sur les exercices. Mais un côté qui est plus orienté sur la pédagogie avec laquelle, justement, nous, on arrive à travailler avec... On co-construit la solution avec des professeurs hein, pour apprendre aussi à la machine... à expliquer un problème.
Ouais, et c'est pour ça qu'il ne se trompe pas, Edouard,
tout
quand
à...
il résout ou qu'il aide à résoudre un problème. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de fausse route, c'est ça, c'est pas possible.
Alors, il peut y avoir une fausse route, il pourrait. Mais vu qu'il accompagne l'élève en lui posant la question de savoir à quel endroit est-ce que tu as un problème, parce que c'est un rectangle ou c'est un triangle, comme je disais tout à l'heure, il arrive à le rediriger vers la manière, donc plutôt la définition et... la propriété concernée. Donc là, typiquement, la marge d'erreur est très faible.
Que dit notre coach?
Ouais, bon, là, je vais être très cool, parce que je vais essayer d'être adorable. Comme c'est une
c'est
start-up
possible,
qui vient
alors,
d'arriver,
avec...
ouais, des fois, avec deux, trois personnes et compagnie, ce qu'il est en train de faire, c'est une très, très bonne idée. Les technos qui sont derrière aujourd'hui, il est obligé de faire des melting pots avec beaucoup de technos qui vont venir de l'étranger. Mais je pense que pour être gentil, hein, de l'étranger, je pense que le meilleur plan aujourd'hui, c'est de se rapprocher de gens comme nous, se rapprocher de gens comme on a autour de nous, parce que l'idée, elle est très bonne. C'est le genre de choses qu'il faut faire. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on prenne ça avec des technos européennes, parce qu'il y en a beaucoup dans nos tiroirs. Et je crois qu'il va être capable d'amener sa vision des choses, sa capacité à aider nos enfants. Avec de la techno européenne plutôt qu'avec GG. Et ça, je peux vous garantir que ça sera bien pour demain.
C'est quelque chose que vous envisagez ou pas, Sébastien?
Alors, tout à fait. Alors, en l'occurrence, pour revenir un petit peu sur le cas... Alors,
parce qu'il s'appelle Edouard, quand
même.
Mais
tout à fait. Bon. C'est un enfant, c'est... Clairement. Alors, en l'occurrence, les technos qu'on utilise aujourd'hui sont, on va dire, tendent vers les technos européennes. Hein. C'est très important aussi de le souligner. Et effectivement, on est, excepté aujourd'hui, le mode de saisie vocale, on est exclusivement sur les technos européennes. Donc, pour répondre à la question.
Le prototype, il est fait pour les maths, puisqu'on vient de parler de problèmes de maths, mais c'est possible aussi, vous l'envisagez, pour d'autres matières, le
Clairement.
Français, la physique.
Alors aujourd'hui, notre secteur d'intervention va être que dans un premier temps, le secteur scientifique, donc avec, comme vous l'avez dit, un point d'entrée sur les mathématiques, et ensuite prolonger sur tout ce qui est physique, chimie, et donc les matières scientifiques de manière générale. Tout à fait.
Elisabeth, il y a des start-up qui sont complètement dédiés à l'IA pour les enfants. Vous en avez trouvé, je crois.
Oui, il y a notamment une qui s'appelle Magic Makers. Vous la connaissez?
Clairement, oui.
Ah, voilà. Alors, elle existe depuis 4 ans.
Au coding, oui.
Elle est spécialisée dans l'apprentissage de la programmation. Et ça a été la première à ouvrir des ateliers de programmation pour les enfants âgés de 6 à 15 ans. Et eux, les fondateurs, ils ont développé leur propre méthode, leur propre outil de pédagogie active, avec des activités, des outils adaptés à chaque âge. Ils se sont inspirés des travaux du MIT. Aux États-Unis et on peut y trouver
non, mais quand on s'inspire ça va,
c'est bien de s'inspirer. Et ils ont, on peut y trouver des ateliers hebdomadaires, des stages pendant les vacances, et il y a déjà plusieurs milliers d'enfants
et
qui
on
ont
a
participé
utilisé
à
Magic
ces ateliers.
Maker pour faire un calendrier de l'Avent sur Quant Junior pour apprendre aux enfants à programmer jusqu'au 24 décembre,
donc ouais, vous
c'est
adhérez
très, très bien. Très, très bien. Mais ce qu'il fait, c'est très, très bien.
On a tout ce qu'il faut, clairement, Eric, ici,
mais
pour
regardez,
fabriquer.
Regardez.
Oui, on a la Lilo.
Vous avez Magic Makers.
On a Pidiez. On a Magic Makers. Et vous allez voir,
voilà.
On n'a pas que ça. Mais on en a d'autres. À tout de suite sur Europe 1.
Il est 13h18.
Europe 1.
Comment faire évoluer le rôle des enseignants ? L'intelligence artificielle est peut-être un outil à leur disposition. C'est le credo d'Open Value. Son fondateur va nous expliquer pourquoi. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et vos invités. Raphaël, aujourd'hui, cette question, comment l'intelligence artificielle va aider les professeurs et les élèves ? Vous avez des questions, des réflexions, des témoignages à nous apporter ? N'hésitez pas, c'est dès maintenant qu'il faut composer le 39-21, c'est le standard d'Europe 1. Et puis on lit également vos messages et vos questions sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
À mes côtés, Elisabeth Assayag et notre coach du jour, Eric Léandre. Et nos invités, Laurent Joly, cofondateur de la Lilo, Stéphane et non pas Sébastien, hein, attention. Binky, responsable du pôle innovation chez Pidiez. Et on va accueillir notre nouvel invité, Guillaume Leboucher. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. J'ai envie de dire que l'intelligence artificielle, finalement, c'est un peu aujourd'hui l'allié comme avant était le livre pour l'élève ou pour le professeur. C'est ce que vous pensez, vous, chez Open Value, que l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est vraiment le nouvel outil ?
Alors, ça sera effectivement le nouvel outil. C'est pas facile à définir parce que quand on parle d'IA, on met beaucoup de choses. Mais on pense, c'est pour ça qu'on a créé une association qui s'appelle l'IA pour l'école, qui a pour but de relier les éducateurs avec le monde de l'IA. On pense que l'IA, effectivement, va permettre de rapprocher l'élève du professeur et notamment, donc, la Lilo et Edouard l'ont montré, de comment on peut plus adapter l'enseignement à l'élève.
Oui, vous avez créé votre start-up il y a 3 ans, mais c'est, je crois, il y a 1 an et demi, hein, finalement, à Londres, que vous êtes dit qu'il fallait vraiment faire dialoguer l'intelligence artificielle et l'école.
Effectivement. C'est
il y a eu quoi, un déclic ?
Il y a eu un déclic. C'est toujours bien d'aller à Londres, c'est toujours bien de marcher dans les rues de Londres. Et effectivement, je me suis dit que ce qui comptait aujourd'hui, c'était de rapprocher ce nouveau monde, ces nouvelles façons de concevoir l'information, la donnée, avec la mère de toutes les batailles qu'est l'éducation.
Alors, comment on fait justement pour qu'ils dialoguent, pour qu'ils se rapprochent, ces deux mondes-là ? Il faut créer une boîte à outils, c'est ce qu'on est en train de faire avec ces différentes propositions ?
Alors, effectivement, il y a le nouveau monde de la EdTech qui va arriver. Des startups qui vont sortir, qui vont permettre effectivement de rapprocher l'élève du savoir. Et il y a toute une série de technologies qui vont sortir. Alors, dans le cadre de la donnée personnelle, donc ça, ça sera un vrai sujet aussi, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'initiatives, mais pas tous ne respectent la liberté d'entreprendre, la liberté de conscience. Et dans ce cadre-là, il y a beaucoup d'initiatives qui sont dans le but de mieux comprendre les difficultés scolaires, de détecter, par exemple, un jour, on va essayer de détecter la précocité, de détecter les dyspraxies.
Donc vous, vous avez créé avec votre start-up, hein, cette fois, parce que vous avez les deux casquettes, à la fois l'association, mais aussi Open Value. Vous avez créé un robot, je crois qu'il s'appelle Nota Bene, c'est
alors,
ça ?
Alors, on fait aussi notre petite start-up dans la start-up. Donc, Nota Bene, c'est quoi ?
Que fait-il ?
C'est, c'est une solution qui permet d'enregistrer les cours pour les professeurs et après, d'utiliser le robot pour en faire la synthèse et faire en sorte que le soir, l'élève ou le parent puisse avoir le résumé, la restitution du cours traité par le robot.
Envoyer aux parents. Aïe, 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 Eric Léandre, ça ne vous plaît pas, ça ?
Aïe, aïe, aïe. Non, ça ne me gêne pas. Avoir un cours restitué, envoyé aux parents, ne me gêne pas. Ce qui me gênerait un peu plus, c'est d'avoir l'élève qui a fourché sur justement sa lecture et qu'on envoie aux parents directement le fourche sans lui donner une solution, parce qu'il va juste se faire engueuler pour rien. Ça ne devrait pas l'aider à lire mieux, mais surtout à arrêter de lire en classe, ce sera plus sympa. Donc, je pense que c'est des très, très bonnes idées. Chaque idée est vraiment bonne, mais remettez-vous quand vous étiez élève, tout ce que vous n'auriez vraiment pas aimé, je pense que nos élèves aujourd'hui, ils n'aimeraient pas plus. Donc je crois qu'à l'inverse, si on met toutes ces très bonnes idées au service des professeurs, au service des élèves, pour donner du plus, pour donner un conseil supplémentaire, pour apporter une idée supplémentaire. Mais on en rêve tous. Mais on en rêve tous, même pour apprendre à dessiner. Maintenant, l'IA nous aide à apprendre à dessiner avec des choses très simples. Ben, pourquoi pas ?
Guillaume Le Boucher.
Oui, alors on a créé Nota Bene. Là, on a une autre réflexion qui est de dire est-ce qu'on pourrait aider les professeurs à mieux corriger les copies,
oui,
grâce à la reconnaissance textuelle, reconnaissance faciale, toujours dans l'anonymisation, et faire en sorte que le professeur ait plus de créativité pour penser à son cours, penser aux élèves, et en même temps, le robot lui fasse gagner du temps.
Oui, et vous allez, je crois, présenter un MOOC demain, c'est ça
Oui, alors demain, nous organisons les assises, les premières assises de l'IA pour l'école. Nous avons la chance d'être reçus à l'Institut de France par Lucien Chollet. Le ministre Blanquer viendra ouvrir ses assises. Et effectivement, nous allons annoncer le lancement d'un MOOC à destination des professeurs pour faire en sorte que comment on peut expliquer l'IA à ce monde de l'enseignement et encore une fois les rapprocher.
Alors on va repréciser ce qu'est un MOOC parce qu'évidemment ici autour de la table tout le monde connaît, mais comment est-ce qu'on peut donner une définition simple ?
Ah, très simple, c'est une plateforme en ligne où on peut apprendre des cours.
Oui. Pour les professeurs.
Là, ce sera à vocation des professeurs.
Ça veut dire qu'eux n'ont pas forcément les bons outils pour se mettre à l'intelligence artificielle aujourd'hui, pas forcément de prise avec le monde extérieur.
Alors, je crois qu'aujourd'hui, enseigner, c'est une vocation. On a monté pas mal de rencontres avec le milieu professoral et on a eu beaucoup de bienveillance par rapport à notre initiative. Et ce qui en ressort souvent, c'est effectivement les professeurs aimeraient accélérer dans ce domaine-là. L'accueil était plutôt bon, plutôt ouvert. Et ils disent, effectivement, venez nous accompagner sur ce type d'initiative.
Eric ?
Open Value, c'est une société qui fait énormément d'IA, puisqu'ils font du conseil en IA avec près de 70 personnes. Donc moi, ma question aujourd'hui, c'est est-ce que l'IA européenne, les gens viennent te voir, ont envie d'avancer avec toi, veulent avoir des nouveautés, tu as des grands groupes, des petits groupes, des écoles. Quels sont les gens qui viennent voir, en fin de compte, des Européens et des Français qui font de l'intelligence artificielle ? Puisqu'il paraît qu'il n'y a que le reste du monde qui en fait.
Alors, pour Open Value, effectivement, on a la chance de travailler pour des grands comptes, dans les médias, dans la banque, dans l'assurance. Aujourd'hui, l'IA devient un sujet essentiel pour l'entreprise. Le Gartner avait dit l'année dernière que grâce à l'IA, on pouvait augmenter de 10% son chiffre d'affaires. Donc, c'est à la fois vrai pour les grands comptes, mais c'est aussi vrai pour les PME. Donc, il faut faire de l'IA, bien entendu, dans un cadre éthique. Bien entendu, et moi, je salue aussi l'initiative de Quant, parce que c'est un peu le leader sur ce type de chemin. Notre Europe est prête à ça. Ce qu'il faut, c'est former plus de personnes. C'est aussi pour ça qu'on a fait cette association. Et de se dire que, on n'est pas moins fort que les autres. Notamment, moi, je suis déjà allé aux États-Unis à San Francisco. Il y a beaucoup de Français qui sont dans les boîtes américaines. Maintenant, il faudrait qu'il y ait encore plus de Français qui fassent de l'IA en France.
Oui, Eric ?
Pardon, j'ai juste une dernière précision là-dessus. Vous savez, l'IA, il y a un truc génial, c'est de l'algorithmie et des maths. Si vous regardez ça, par exemple, il y a trois jours, nos amis de chez Nvidia ont réussi à faire de la 3D juste avec des vidéos. Ben aujourd'hui, trois jours après, on sait le reproduire chez Quant. Voilà. On peut rattraper vite le retard.
Oui. On est en train de le faire d'ailleurs, si ce n'est déjà fait. On reste ensemble, on continue à parler intelligence artificielle sur Europe 1.
Il est 13h28. Europe 1.
Et on vous attend bien sûr, 39-21. L'avenir de l'école passe-t-il par l'intelligence artificielle ? Venez poser vos questions à nos invités. A tout de suite sur Europe 1.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'intelligence artificielle. Comment va-t-elle aider les professeurs et les élèves ? Vous êtes nombreux à réagir sur les réseaux sociaux et au standard d'Europe 1, le 39-21, 50 centimes la minute, Raphaël.
Comment l'intelligence artificielle va aider professeurs et élèves ? Eh bien, nos invités ont en partie la réponse. Laurent Joly, cofondateur de Lalilo. Stéphane Binky, responsable du pôle innovation chez Pidiez, qui développe Edouard, l'assistant pédagogique. Et Guillaume Le Boucher, fondateur de l'association LIA pour l'école et de la start-up Open Value. À mes côtés toujours, Elisabeth Assayag et notre coach Eric Léandre. J'ai simplement envie de vous demander quelle place occupe aujourd'hui l'intelligence artificielle dans l'école ? Est-ce qu'on a un pourcentage ? Et quelle est ensuite la part de développement possible ? Qui a la réponse ? Guillaume Le Boucher peut-être ?
Alors la place pour l'instant, elle est encore faible. Mais je peux dire, le potentiel est énorme. Si on arrive justement à rapprocher les professeurs avec ce monde-là, à leur faire comprendre que l'intelligence artificielle, c'est d'abord des algorithmes, des data, c'est d'abord un monde qu'on peut construire ensemble, le potentiel pour améliorer le savoir et la transmission, il est absolument impressionnant.
Et en fait, il y en a énormément de l'intelligence artificielle à l'école, dans les moteurs de recherche, c'est que ça. Il y en a dans tout un tas d'applications chez nos amis GAFA. Et aujourd'hui, on peut ramener nos applications et mettre de l'intelligence artificielle au service des enfants.
Elisabeth, ça se passe comment ailleurs? Est-ce qu'il y a des pays qui sont un peu plus avancés que nous, par exemple?
Éric Léambly va bondir, hein, mais oui, je suis désolée, Éric. Hein. Les États-Unis, le Canada, Israël mettent en avant l'intelligence artificielle dans les apprentissages. Par exemple, en Israël, ils ont mis en place des outils de détection, d'évaluation des enfants, évaluation des niveaux de classe, des outils qui peuvent analyser les notes, qui analysent le comportement, enfin la réaction des enfants par rapport aux devoirs donnés. Et donc, on adapte les devoirs. Et moi, en lisant ça, je me suis dit, mais la méthode Montessori, qui est donc personnalisée et adaptée à chaque enfant, on peut peut-être se demander si ce n'était pas les prémices de l'intelligence artificielle.
Ah, bonne question.
Effectivement, on peut dire que déjà, Montessori avait compris ce que c'est que d'adapter l'enseignement. Ce qui est sûr, c'est dans ce que vous avez dit, le potentiel des données va accroître la capacité à comprendre. Le professeur, peut-être qu'on peut imaginer que la nouvelle classe dans 10-15 ans, c'est un professeur entouré de 3-4 robots qui va essayer de comprendre le niveau, les difficultés, les besoins de chacun.
Est-ce qu'il y a des gens, quand vous arrivez, Laurent Joly, Stéphane Binky, avec Lalilo ou avec Edouard, est-ce qu'il y a des gens qui vous disent « moi je suis un petit peu réfractaire, j'ai un peu peur de tout ça
» ce que nous disent les gens surtout, c'est qu'ils ne comprennent pas forcément très bien. Et en fait, c'est un mouvement qu'on est en train de faire. L'intelligence artificielle, finalement, c'est qu'un outil. Cet outil, il faut réussir à le rendre pédagogique. C'est-à-dire qu'effectivement, ça fait plus d'un siècle que Maria Montessori dit qu'il faut s'adapter aux enfants.
Oui.
On a une technologie qui permet de le faire, c'est très bien. Et le deuxième mouvement qu'il faut faire, effectivement, et ça va arriver, c'est de réussir à former les gens. Quand on a un nouvel outil, évidemment, il faut apprendre à s'en servir. Donc, je pense qu'il y a surtout un peu d'appréhension sur le fait que c'est un nouvel outil qu'on ne comprend pas forcément très bien. Et il y a beaucoup de profs qui sont très demandeurs de formation à ce niveau-là.
Même question, Stéphane.
Je rejoignerai justement
Laurent.
Laurent, oui, tout à fait. Parce que nous, le retour qu'on a clairement, c'est effectivement l'outil lui-même nous permettrait de pouvoir personnaliser l'accompagnement qu'on a avec un élève qui est très doué. En l'occurrence, lui, on ne lui donnera qu'une portion de l'exercice. Il sera à même de pouvoir résoudre l'ensemble et donc l'adapter à d'autres qui ont plus de difficultés. Et cela, justement, avoir cet accompagnement
de
manière pédagogique. Oui,
c'est adapté, effectivement, un peu sur le même principe que vous le disiez, que l'école Montessori. On a, je crois, quelques premières réactions Twitter.
Il y a des messages et des questions. Alors, il y a Jean-Xavier, je pense que cette question, elle s'adresse à Guillaume Le Boucher, qui dit l'intelligence artificielle a vocation à rester une aide à l'enseignement ou risque-t-elle à terme, avec son développement, de remplacer l'enseignant?
Ah.
Alors,
la fameuse question,
on l'attendait.
Elle est là.
Effectivement, nous, dans notre vision, et je pense qu'Éric dirait la même chose, c'est qu'il faut tout faire pour que ça reste de l'intelligence augmentée. Joël Doronnet a dit qu'il fallait arrêter de parler d'intelligence artificielle, il valait mieux parler d'intelligence auxiliaire. Donc nous, en tout cas, notre vision, c'est de dire que l'intelligence doit être au service de l'enseignement et de l'enseignement, et pas le contraire.
Éric ?
Ah, mais moi, je vais d'abord arrêter de passer pour un anti-israélien, anti-américain,
anti-chinois.
J'adore Israël et on est jury pour l'intelligence artificielle pour toutes les startups d'Israël avec Quant. Comme ça, au moins, voilà. Et c'est pareil pour l'Europe. Non, c'est des idées, elles sont géniales et il faut les prendre au Canada, aux États-Unis, en Israël, même en Chine, s'ils ont des bonnes idées. Et il faut les ramener chez nous, adaptées à la démocratie et au droit des gens à disposer de leurs data. Et pour ça, je dis pareil, mais juste un petit point. L'histoire de remplacer, c'est si on va vers remplacer, parce que ça marche aussi pour quand vous allez à l'aéroport pour prendre vos tickets, si on va vers remplacer, alors que les machines payent les URSSAF. Et qu'on puisse reformer les gens à faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus intelligentes. Arrêtons de jouer ce « je remplace » juste pour s'engraisser encore plus à la place des gens.
Il y a Olivier qui nous dit justement, dans mon entreprise, nous fabriquons des logiciels de gestion de paye et de RH. L'intelligence artificielle aide nos utilisateurs à répondre aux problématiques des utilisateurs et aux questions sur le prélèvement à la source. Voilà, c'est une aide, c'est un outil supplémentaire. Ce n'est pas quelque chose qui est fait pour remplacer évidemment les gens qui sont à leur travail. C'est en tout cas une boîte à outils supplémentaire, quelque chose en plus, comme par exemple le smartphone. Avant, on avait le téléphone fixe, aujourd'hui c'est le smartphone. Voilà, ça a changé et parfois le changement, ça a aussi du bon.
Et juste, depuis tout à l'heure, on entend qu'il y aura d'autres robots dans la salle et compagnie. Vous savez, votre tablette, c'est un robot. Une fois qu'on a mis une AI dedans, elle vous parle, elle vous répond, vous lui parlez, voilà.
Alors, il y a une question de Sylvie pour Stéphane Binky qui demande Edouard s'adresse-t-il aux établissements ou aux particuliers? Et dans ce cas-là, combien ça coûterait aux parents d'avoir Edouard à la maison?
Pour répondre, Edouard s'adresse aux particuliers, donc aux parents d'élèves, et également aux établissements scolaires, donc les deux. Alors, dans un premier...
Parce qu'au départ, c'est comme ça que c'est né, Edouard.
Clairement, tout à fait. Parce
vous étiez à Nantes moi, et il y avait un jeune qui n'arrivait pas à faire ses devoirs tout seul. Donc...
C'est que j'ai eu vraiment 8 ans de cours, on va dire, de soutien scolaire. Donc, je connais réellement le milieu lui-même. Hein. Donc, j'ai accompagné plusieurs types d'élèves, ceux qui avaient des difficultés spécifiques, d'autres qui travaillaient à distance parce qu'ils avaient la phobie scolaire. Donc, ils n'arrivaient pas forcément à travailler en autonomie. Donc, pour répondre effectivement à la question, Edouard donc, aide d'un côté justement l'élève dans son apprentissage, donc de tout type d'exercice hein, scientifique. Et dans un autre sens, il accompagne aussi le professeur donc, dans sa classe et également dehors de la classe. Parce que le professeur, lui, effectivement, lui permet de pouvoir présenter son exercice, comme on disait tout à l'heure, et l'adapter en fonction du niveau scolaire, mais aussi un prolongement à la maison, parce que l'élève a aussi des devoirs à maison, les parents souvent sont à la ramasse, donc ça leur permet aussi d'avoir aussi ce retour de... Alors, Edouard notifie également les parents, il le notifie donc que bah, l'élève, on sait suivre le parcours de l'élève. Et d'un autre côté, il y a aussi le professeur, puisque le professeur est aussi au courant donc, des lacunes et des difficultés que peut avoir l'élève.
Et c'est payant pour les particuliers.
Alors,
on
a un système d'abonnement qui sera donc pour les parents d'élèves, parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que tous les parents n'ont pas cette chance d'avoir un professeur à domicile, donc ça coûte quand même un budget aussi. Et donc, on a ce système d'abonnement pour les parents d'élèves et pour on va dire les écoles, ce sera plus sous forme de licence, pour répondre à la question.
On vous remercie d'être venu parler intelligence artificielle. Les premières assises, c'est demain, évidemment. Je suis sûre qu'on va découvrir plein de nouvelles choses ici, en France. À tout de suite sur Europe 1.
Il est 13h39.
Europe 1.
Elle existe, elle, depuis 1830, a vu le jour dans la Manche, la manufacture Moviel et l'entreprise qui va bien. Merci.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours entre 13h et 14h et tous les jours vous nous présentez Raphaël Duchemin, une entreprise française bien sûr qui va bien.
Et cette entreprise a vu ses produits équiper les cuisines les plus célèbres. Bonjour Valérie Le Guin-Gilbert, merci d'être avec nous. Moviel est née en 1830 dans la Manche à Villedieu-les-Poêles. Elle porte le nom d'ailleurs de son créateur. Oui. Ernest, hein. Ce n'est pas un hasard si c'est là-bas, parce que depuis très longtemps, on y travaille le cuivre dans cette région. Il y a à l'époque, dans le village, je crois, une quarantaine d'unités.
Aujourd'hui,
il n'y a plus que vous.
Oui, il n'y a plus que nous. Officiellement, Villedieu-les-Poêles, voilà, c'est le 11e siècle, donc c'est la cité du cuivre. Officiellement, la société a été créée en 1830, mais dans l'arbre généalogique de ma famille, c'est déjà bien avant 1830, voilà, puisque donc c'est toujours familial et
vous êtes la septième génération.
Oui, tout à fait.
Alors, en 1911, je crois que vous avez votre vaisselle qui est embarquée sur,
Titanic.
Sur le Titanic.
Exactement.
Ouais. Ça, c'est une très belle histoire aussi.
Alors, ça rejoint l'histoire et la réalité encore aujourd'hui hein, de la société, puisque donc on est fabricant d'ustensiles de cuisson haut de gamme. Et depuis le début, même si depuis, on a extrêmement développé la société sur le marché du grand public, mais c'était vraiment pour équiper les cuisines des chefs. Donc, le Titanic souhaitant les meilleurs produits, voilà, j'imagine que Moviel était une évidence pour équiper les cuisines. Donc il y a une casserole d'ailleurs qui a été remontée de l'océan et qui actuellement est à New York.
Ces casseroles, ces ustensiles de cuisine sont au départ dans les plus grandes cuisines françaises, des chefs bien sûr. Vous le dites aussi très bien, aujourd'hui vous avez diversifié, il y a aussi ces ustensiles qui ont fait l'entrée dans nos cuisines à nous. Qu'est-ce qui fait la différence d'un ustensile qui est fabriqué chez vous en cuivre, parfois dans d'autres matières aussi aujourd'hui?
Oui, parce que voilà, on est une des parties de la diversité, c'est qu'on fabrique 4 matières différentes. Donc c'est vrai, à l'origine, c'était le cuivre. La Seconde Guerre mondiale a fait qu'il a fallu développer aussi l'aluminium. Donc vous voyez, des étapes aussi de l'histoire ont fait que. Et maintenant, on travaille surtout majoritairement les multicouches inox, entre autres, pour le marché français, pour l'induction. Donc le cuivre, en l'occurrence, ou des multicouches inox qui sont par exemple avec de l'aluminium, c'est très chimique. Hein. C'est que le cuivre est le meilleur conducteur de chaleur après l'argent. Donc, les chefs ou les particuliers, hein, et peu importe les niveaux d'ailleurs, souhaitent avoir une conduction de la chaleur la plus performante. Et donc, ça aide, comme dit un chef avec qui on a un partenariat, là, Yannick Aïnou, c'est la véritable continuité de leurs mains. Ce n'est pas anodin. Donc, c'est le pinceau au peintre et la casserole est au chef. Et peu importe les niveaux.
Et vous dites, ça c'est intéressant aussi, notre mission c'est la sauvegarde du patrimoine français.
Oui, vous imaginez, moi je suis donc la septième génération, donc j'ai hérité d'une entreprise voilà, avec une très très belle histoire, et donc j'ai juste un devoir, c'est de transmettre cela. Donc c'est pas plus compliqué que ça, donc c'est une pression qui peut paraître peut-être pour certains compliquée, mais c'est en tout cas une passion, voilà, voyez le mot me sort, qui est très positif, parce que c'est un devoir de, donc c'est de, au quotidien, de mixer en permanence la tradition et la modernité, et aussi lorsqu'on travaille avec des designers aujourd'hui développer des produits, c'est en permanence d'avoir ce souhait de transmettre voilà, les savoir-faire.
Et ce patrimoine français, ce qui est assez surprenant aussi, c'est qu'il se transmet beaucoup à l'étranger, parce que 70% de votre chiffre d'affaires, il est fait à l'étranger. Vous faites 17 millions, c'est ça, de chiffre d'affaires?
Oui, on a une filiale aux États-Unis, c'est notre plus gros marché, et c'est vrai qu'encore plus à l'étranger, alors évidemment, la gastronomie française, vous imaginez ce que ça représente, mais en plus de savoir qu'on est pratiquement le dernier étameur, et entre autres, on réétame par exemple les produits des cuisines de l'Élysée, par exemple, parce qu'ils n'avaient plus d'étameurs, donc c'est un vrai lien aussi avec la sauvegarde du patrimoine, parce que 900 produits dont le plus vieux qu'on ait réétamé date de 1740, il n'y a plus d'étameur. Donc vous voyez, il y a aussi cette notion de sauvegarde du patrimoine et d'une certaine histoire. Hein, c'est sur les ustensiles de cuisson, il y a l'histoire
dans les métiers,
des monarchies et des républiques, hein, et plus les savoir-faire. Donc c'est pour ça qu'on a créé une école en interne. Et,
vous développez des cours de cuisine, vous êtes aussi tourné vers l'avenir.
Voilà, parce qu'aujourd'hui, les gens aussi ont surtout envie en plus aussi d'être éduqués, qui est en lien avec votre question précédente, pourquoi un ustensile de cuisson? On oublie. Pourquoi la forme d'une casserole? Pourquoi une poêle? Ça ne vient pas de rien, hein, ça n'a pas été créé pour rien. Donc, vous n'allez pas cuire un steak dans une casserole. Tout ça est... Voilà, donc les formes ont toute leur importance. Donc, c'est vraiment lié à l'éducation. Et les gens, en plus, sachant que c'est toujours... Made in Normandie, nous on dit, voilà.
Oui, puisque maintenant c'est marqué, voilà. Hein, gravé sur vos...
Donc on a créé un lieu dans l'usine où on y lit les visites de l'usine, des cours culinaires. On a même une table pour manger dans l'usine, parce que je crois qu'aussi aujourd'hui, les mots sens et émotion ont toute leur importance.
Un mot?
Oui,
du coach.
Moi j'avais une question. Vous êtes passé de la façon de faire avant à maintenant de la 3D, j'imagine, pour designer vos nouveaux
produits.
Pas
encore, mais on envisage, parce que c'est quelque chose qui est depuis 2 ans, vous voyez, on développe maintenant du sur-mesure pour des chefs, et puis aussi on commence maintenant à travailler beaucoup avec des architectes d'intérieur pour équiper des maisons, et donc il y a des demandes sur-mesure, d'où, vous voyez, le lien avec la sauvegarde des patrimoines, parce que nous on a encore des chaudronniers, hein, c'est les dinandiers chaudronniers, on vient d'éduquer 3 jeunes qu'on a embauchés, et donc comme ça se développe pas mal, on envisage oui d'avoir une imprimante 3D, parce que c'est pour aller plus vite et moins cher.
C'est Moviel 1830 et c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler.
Merci. Il est 13h48.
Europe 1.
La cuisine, justement, on peut tomber dedans tout petit. Pour les chefs en culotte courte, la solution s'appelle Cuisine Aventure. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h et tous les jours, juste avant 14h, Raphaël Duchemin, vous nous proposez la solution du jour. Aujourd'hui, elle s'adresse à tous les futurs cordons bleus.
Ah oui, comment permettre à nos enfants de devenir de véritables petits chefs en herbe, tout en s'amusant, bien sûr. Elisabeth, il s'agit de cours de cuisine par correspondance.
Oui, ça s'appelle Cuisine Aventure. Ça existe depuis 1 an. Ce sont les premiers cours de cuisine par correspondance. Et leur truc en plus, c'est qu'ils s'adaptent à chaque enfant. Ça fonctionne par abonnement, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Et à chaque fois, votre enfant reçoit un petit colis avec des recettes à réaliser, se présenter sous forme de défis. C'est adapté aux facultés, aux compétences de l'enfant et il s'agira toujours de produits de saison parce que l'idée, c'est aussi d'éduquer les enfants à la cuisine.
Alors, pour en parler, nous sommes avec le fondateur de Cuisine Aventure, Nicolas Jean, bonjour.
Bonjour.
Au départ, vous proposez des ateliers classiques de cuisine pour adultes et enfants. Puis, vous avez imaginé ce concept de cours cuisine par correspondance, c'est ça?
C'est exactement ça. En fait, il y a 12 ans, on a monté un atelier de cuisine physique à Strasbourg où, du coup, on accueille des particuliers pour des ateliers cuisine, pour les encadrer, pour qu'ils prennent plus de plaisir à cuisiner. Et finalement, on se rend compte que la cuisine, on peut l'apprendre à la maison à partir d'être bien encadré, à partir du moment où on est bien encadré et où effectivement on prend le temps d'apprendre à cuisiner.
Alors, comment ça vous est venu cette idée? Vous-même, vous avez des enfants et vous vous êtes dit, j'ai envie qu'ils apprennent un peu plus ou différemment?
Alors, l'idée est venue, en fait, j'ai une nièce qui adore faire la cuisine, qui malheureusement n'habite pas à côté de Strasbourg, qui habite à côté de Grenoble et qui ne prenait pas de cours de cuisine physique. Elle n'avait pas ni le temps, ni des ateliers à côté de chez elle. Et par contre, à chaque fois qu'elle venait voir son tonton et sa mamie à Strasbourg, et ben clairement, la première chose qu'elle demandait à sa maman, c'est « Maman, quand est-ce que je vais faire un cours de cuisine chez tonton ?» Et c'est exactement ça, c'est de me dire « Mais pourquoi cette petite fille ne peut pas apprendre à cuisiner finalement chez elle et adapter un cours de cuisine qu'elle reçoive à la maison. La cuisine, ce n'est pas comme de l'équitation ou du ski. On peut apprendre à faire ça chez soi à partir du moment où on a un minimum de matériel et surtout l'encadrement qui va nous permettre de progresser, permettre à tous les enfants de progresser.
Alors la petite nièce de 7 ans, concrètement, comment ça se passe? Comment elle apprend à cuisiner?
Alors, Cuisine Aventure, la vraie innovation derrière Cuisine Aventure, c'est d'essayer de s'adapter à chaque enfant. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un enfant a 4 ans ou 7 ans ou 10 ans qui saura plus ou moins bien faire la cuisine, mais vraiment, c'est en fonction de qui il est, quel petit chef cuisinier il est. Donc, comme vous l'avez dit, au démarrage de l'abonnement, on va demander à chaque enfant ce qu'il sait faire en cuisine. On a une trentaine de questions qui vont de casser un œuf à désarrêter un poisson, on va dire. Et en fonction de ces questions-là, on va effectivement connaître son profil de petit cuisinier. En plus de ça, on prend en compte tout ce qui est choix alimentaire, intolérance ou allergie alimentaire et le matériel dont il dispose dans sa cuisine. Une fois qu'on a tout ça, en fait, on va faire comparer le profil du petit cuisinier avec des recettes. Et on a développé un algorithme qui nous permet tous les mois d'envoyer deux recettes. Une sucrée, une salée à base de fruits et de légumes de saison, c'est essentiel pour nous. Où l'enfant sait déjà tout faire, sauf une chose. Il y a une chose, il nous a dit, ça je ne sais pas le faire. Et notre objectif, c'est que chaque mois, il apprenne quelque chose de nouveau et qu'à son rythme, il progresse en cuisine.
Un mot du coach?
D'abord, c'est génial. Deux, je ne l'avais pas vu avant, donc je ne sais pas si j'avais beaucoup de concurrents, mais c'est absolument très bon. Justement, là, je vais reprendre une petite casquette de coach, et pas celle-là, parce que là, je vais devoir tout apprendre, même l'œuf. Pourquoi une SARL? Combien vous êtes aujourd'hui? Quand c'est que vous allez lever? Et pourquoi on ne vous connaît pas plus? Il faut vraiment y aller à fond, parce que c'est top.
Alors, pourquoi une SARL? Déjà, ça a été créé une deuxième société pour développer Cuisine Aventure et se donner les moyens, effectivement.
Bon, alors, il faut faire des SAS.
D'accord. Voilà. Bien, coach. deuxième question, c'était combien on est. Aujourd'hui, il y a 3 personnes à temps plein, plus des intervenants pour tout ce qui est développement de recettes, création de recettes, prise de vue, etc. Et après, quand est-ce qu'on lève? Quand on aura un petit peu plus d'abonnés. Aujourd'hui, il y a 1500 enfants qui
sont
abonnés.
C'est énorme.
Oui, c'est énorme, 1500 enfants.
Mais c'est top, il faut lever maintenant. Mais il faut lever maintenant pour en avoir beaucoup plus. Là, vous avez tout. C'est top. Tout le monde a envie autour de la table.
C'est
tout le monde
vrai,
a
c'est génial.
Brille. Même moi, je vais commencer l'œuf avec ma fille. C'est top.
On ne vérifie pas l'âge. Si vous voulez vous abonner, il n'y a pas de souci.
Et ben nous, on va s'inscrire. On va aller apprendre à désarrêter le poisson. Vous êtes d'accord, Elisabeth?
Nous d'abord, oui. Les enfants après.
Ça s'appelle Cuisine Aventure. C'est pour les enfants et aussi pour les grands. Merci à vous d'être venu nous en parler. Merci, Eric. Et nous, on se dit à demain, Elisabeth.
Et dans un instant, sur Europe 1, 14h pile, vous avez rendez-vous avec Christophe Ondelat. Bonjour Christophe.
Bonjour Anissa. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui va nous ramener au temps des babacools. Je vais vous raconter comment a été inventé, créé, le guide du routard.
Et voilà, Ondelat raconte très dépaysant donc aujourd'hui à partir de 14h avec Christophe Ondelat sur Europe 1, bien sûr.